Henri de Régnier, le Ménechme. Si je ne prétends imposer aucune explication du fait bizarre que je vais rapporter et dont je me borne à certifier l'exactitude, je voudrais en retour que l'on s'abstint également d'y voir un indice défavorable à mon état d'esprit. Oh, je n'ai pas grand goût pour la réputation d'un homme à imagination. Mais je ne tiens pas plus à passer pour ce qu'on appelait jadis un visionnaire ou un songe-creux qu'être pris pour ce qu'on nomme aujourd'hui un halluciné ou un névropathe. Me serait fort peu agréable d'être considéré comme un fou. Une pareille opinion me nuirait extrêmement. Le genre de travaux où je m'occupe me rend nécessaire l'estime des gens de sens. Aussi aurais-je peut-être mieux fait de faire ce que je me laisse aller à raconter. Néanmoins, vous ayant promis de récit, je tiendrai ma promesse. Mais auparavant, je prendrai la précaution de déclarer que, d'avance, je consens très volontiers à admettre que j'ai été, dans ce cas qui va suivre, le jouet de quelque coïncidence ou la dupe de quelque mystificateur. On pourra donc s'amuser de ma crédulité, mais non suspecter ma bonne foi, ni douter de ma raison. Voici les faits. L'automne dernier, vers le milieu du mois de novembre, comme je me préparais au travail de l'hiver, je voulus mettre à l'ordre dans mes notes, prises antérieurement, d'un petit ouvrage d'histoire que je me proposais de rédiger pour une revue qui me l'avait demandé. C'était une étude sur le maréchal de Manissard, le rival de Villars et des Luxembourg, et le héros du fameux siège de Dortmund. Or, en consultant mes documents, je m'aperçus que j'avais besoin, pour un détail de physionomie, de revoir le portrait du maréchal par Rigaud, qui est au musée de Versailles. Cette bourse décidée, j'attendis un jour favorable pour me rendre à la ville du grand roi. Je voulais profiter de ma promenade pour faire un tour dans le parc, si beau en cette saison. Mais les après-midi qui suivirent furent pluvieuses. Néanmoins, comme le temps pressait, j'en choisis une qui me parut ne devoir pas être trop mauvaise, et je me mis en route aussitôt, après mon déjeuner. Arrivé à Versailles, je me dirigeais vers le château. Au vestiaire, qui est près de la chapelle, je confiais au gardien mon parapluie et je montais le petit escalier qui mène aux grands appartements. Jamais je n'entre en cette admirable demeure sans éprouver le sentiment de sa grandeur et de sa magnificence. Je marchais donc dans ce souverain décor de gloire quand, parvenu au salon de la guerre, je me souvins soudain du but de ma visite. Et à quoi pensais-je donc? Le portrait de mon manissard était au rez-de-chaussée, dans les salles des maréchaux. Il me fallait réparer mon inadvertance. Mais sans doute ce jour-là, j'étais, quelque peu distrait, car au bout d'un moment, au lieu d'avoir regagné la sortie des appartements, je me trouvais dans la pièce qui fut la chambre à coucher du roi. Vous connaissez cette chambre avec son lit monumental et empanaché qui isole une balustrade douce, dorée. Vous connaissez aussi, au chevet du lit, l'étonnant médaillon en cire de Benoît, qui représente Louis XIV âgé. Alors je m'étais approché pour regarder l'extraordinaire effigie du vieux monarque, Et le royal visage, modelé en une cire colorée, qui semble prodigieusement vivante, montre, sous l'abondante et sévère perruque, son profil orgueilleux et sénile, au nez hautain, à la lèvre pendante et en lippe. C'est bien là le vieux Louis, maniaque et superbe, endurci par 50 années de règne, toujours grand malgré le déclin de ses forces et de son astre, celui dont la présence despotique emplit encore l'énorme palais qu'il a construit et qu'il semble toujours hanté de son ombre glorieuse et taciturne. Je serais resté là longtemps à contempler la fascinante et royale image si un groupe de touristes, accompagné par un guide à casquette, ne fût venu troubler ma rêverie. Je jetai un dernier regard au surprenant chef-d'œuvre et je me dirigeai, pour de bon cette fois, vers la salle des maréchaux où m'attendait son bâton fleur-de-lysée à la main, mon brave maréchal de Manissart, montrant d'un geste héroïque à l'admiration de la postérité les remparts de Dortmund en flammes. Lorsque j'eus repris mon parapluie au vestiaire et que je me trouvais sur la terrasse du château, j'eus un moment d'hésitation. Le ciel s'était couvert. De gros nuages s'amoncelaient au-dessus des verdures rouillées du parc. Les bassins du parterre d'eau étaient si ternes que les statues qui l'entouraient s'y reflétaient à peine leur forme de bronze. Les rares promeneurs se hâtaient, et je crus même sentir quelques gouttes de pluie. Néanmoins, malgré l'heure déjà tardive, et le temps menaçant, il m'en coûtait de ne pas passer jusqu'au Trianon. Certes, j'aime bien le parc de Versailles, mais celui du Grand Trianon m'a toujours paru plus beau encore. Nulle part au monde, on ne peut glorifier la mélancolie de l'automne dans un plus noble décor. Tant pis si je devais être mouillé. D'ailleurs, une fois là-bas, il y aurait bien quelques fiacres pour me ramener à la gare. Ma résolution étant prise, et d'un bon pas, je me mis en chemin, sans me préoccuper davantage de ce qui pourrait arriver. Et à peine avais-je franchi le portail par où l'on pénètre dans les jardins de Trianon, que je compris que je n'avais pas à regretter mon imprudence. Bien souvent, j'avais erré à l'automne dans leurs allées jonchées de feuilles mortes et rôdées autour de leurs bassins mélancoliques, mais jamais je ne les avais vus imprégnés d'une telle tristesse, si morts en leur solitude, si étrangement désert que par cette fin de journée, morne et grise. Toujours j'avais partagé leur charme d'arrière-saison avec quelques visiteurs attirés comme moi par leur prestige automnal. Mais aujourd'hui, personne ne trouvait l'étrange silence et le muet abandon. Ils étaient à moi seul. Seul je pouvais, de leur morose et de leur beauté, je le jouissais d'eux. Aussi je me sentais-je un singulier désir de les parcourir tout entier, de n'en pas laisser un coin inexploré. Il me semblait qu'ils avaient un secret à me confier, que j'allais surprendre enfin l'énigme de leur mystère. Assis sur un banc que j'avais choisi pour me reposer un instant et dont je caressais de la main le marbre velu de mousse, je méditais ces impressions quand je crus entendre un bruit de pas se rapprocher. Je prêtais l'oreille, je ne m'étais pas trompé. Et soudain, j'éprouvais une curiosité sympathique pour le promeneur invisible. À ce moment même, il débouchait d'une des allées aboutissant au rond-point où je me trouvais, et qu'il traversa lentement sans me voir. C'était un homme âgé, en jugé d'assez loin. Il marchait pesamment en s'aidant d'une canne. Il était enveloppé d'une vaste houppelande et coiffé d'un feutre à large bord qui s'échappait par derrière des cheveux longs. Il portait des culottes et des bas de bicycliste. Oh, ce devait sans doute être un quelque peintre. Et son allure, quoique un peu bizarre, ne manquait pas de dignité. Mais le plus singulier, c'est qu'en apercevant, j'avais été sur le point de me lever. Oui, j'avais l'impression que c'était moi qui troublais sa promenade et non lui qui dérangeait ma rêverie. Et quand il eut disparu, j'éprouvais un malaise si indéfinissable que je quittai mon banc et que je pris une des allées qui ramène vers les parterres. J'avais bien fait, du reste, de ne pas m'attarder davantage, car le crépuscule venait rapidement, rendu plus sombre par les nuages noirs qui s'accumulaient au ciel. Cette fois, il n'y avait pas à en douter, la pluie était proche. Il était temps de partir. Trouverais-je au moins un fiacre ? Il n'y avait naturellement pas une voiture devant Trianon. Et l'averse, qui avait commencé comme je sortais du jardin, ruisselait maintenant sur les pavés de l'avant-cour. C'était un véritable déluge dont je m'abritais tant bien que mal sous mon parapluie, en observant si je ne verrais pas poindre au bout de l'avenue quelques lanternes secourables. Mais rien. La situation devenait désagréable. Je commençais à maugréer quand un bruit de route se fit entendre. Une grosse voix me criait « Hé, bourgeois, ça va-t-il pour Versailles ? Attendez que j'allume, on y voit goutte. Alors, montez. Est-ce que le vieux est avec vous ?» Je regardais dans la direction que le cocher m'indiquait avec son fouet. Sous l'averse redoublée, je reconnus mon promeneur de tout à l'heure. Il agitait sa canne en signe d'appel, croyant sans doute la voiture vide, car j'étais déjà installé sur les coussins râpés. Décemment, je ne pouvais abandonner ce vieil homme, par un temps pareil, en un lieu isolé. À ma voix et à l'offre que je lui faisais de le reconduire, il avait porté vivement la main son feutre. Les bords trempés d'eau se rabattaient si bien sur son visage que je n'en distinguais pas les traits, d'autant plus que je m'étais rejeté au fond du fiacre pour lui faire place. Sans mot dire, il avait accepté mon invitation et il était monté auprès de moi. Et voici que nous roulions maintenant sur le sol inégal de l'avenue Crottante où le ciel continuait à verser ses cataractes. Nous allions ainsi depuis un moment sans que mon hôte véhiculaire eût prononcé une seule parole. Dans l'obscurité du fiacre, je voyais ses mains croisées sur le bec de sa canne. Mais le feutre, tout le rabattu, me cachait toujours sa figure. Une ou deux fois, je tentais d'engager la conversation, mais sans succès. Et je finis par me résigner au mutisme de l'inconnu. Décidément, le bonhomme n'était pas bavard. Du reste, si je lui avais offert l'hospitalité de ma guimbarde, ce n'était point pour écouter ses propos, mais pour lui éviter quelques bonnes fluxions de poitrine. Libre de lui, de se taire. D'ailleurs, nous approchions les réverbères du boulevard de la Reine, et apparaissait. Il me restait donc plus qu'à demander à mon silencieux compagnon où il voulait que je le déposasse. Mais j'allais lui adresser cette question quand il fit un mouvement pour mettre la main dans sa poche. À ce moment, nous passions devant une boutique vivement éclairée et le visage de l'inconnu m'apparut en pleine lumière. Oh, je faillis pousser un cri de surprise. Ce long nez, ces yeux aux paupières lourdes, cette lippe pendante, cette face orgueilleuse et sénile, c'était celle-là même dont j'avais quelques heures auparavant contemplé l'image royale et dure dans la cire de Benoît, et qui par quelque jeu du hasard revenait devant moi en une prodigieuse et fortuite ressemblance. J'étais en présence d'une prodigieuse coïncidence physique. La nature s'était amusée à se répéter ironiquement et affubler le pauvre homme qui ne pouvait, à côté de moi, dans ce fiacre, du masque souverain dont elle avait péri jadis pour d'autres dessous, la femme célèbre et glorieuse. Un coup sec frappé à la vitre du fiacre et son arrêt brusque me tirèrent de ses réflexions. Mon étrange compagnon avait ouvert la portière et mis pied à terre. Il soulevait son feutre et de sa bouche édentée, où les mots sifflaient un peu, j'entendis me dire « Permettez-moi, monsieur, de partager avec vous le prix de cette voiture, et merci de m'avoir ramené jusque chez moi. » Et en même temps que de la place d'armes nous étions, il désignait la haute grille dorée et la masse confuse du château, le singulier Ménec me faisait signe au cocher de continuer sa route vers la gare. Et ce ne fut qu'une fois en wagon que je songeais à examiner la pièce d'argent que l'inconnu m'avait glissée dans la main avant que j'eusse pu m'y refuser. Elle portait l'effigie du grand roi et en exergue l'inscription latine « Ludovicus Celestimus Rex Gallicae et Navarrae » avec le millésime de 1701.